Voilà, c'est ça, pour les papilles.
Un petit peu à droite.
Vous avez remarqué dans Jean, au chapitre 17, je pensais ça juste avant, verset 4. Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. » Il n'est pas passé à la croix. Il n'est pas passé à la croix et il dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. » Et c'est, je pense que c'est au travers de ces... De ce temps de Sainte-Seine, de scène là, qu'il a eu avec les disciples, où il s'est passé quelque chose de particulier. En fait, j'aimerais ce matin qu'on puisse reprendre un petit peu les premiers, ces chapitres là, de 14, 15, 16, 17 de Jean. Et on essaye de les voir un petit peu au travers de la vie des disciples, en fait. Parce que pour nous, Jean 14 à 17, on l'a lu, on l'a relu, mais essayons de nous arrêter 30 secondes sur comment est-ce que les disciples, ils ont pu vivre ça. C'est le dernier soir. Jésus passe avec les disciples, il passe du temps avec eux. Ces versets sont communs, mais pour eux, c'était exceptionnel, c'était leur vie. C'était le déroulement de leur vie qui était en train de se passer à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils ont ressenti les paroles de Jésus à ce moment-là? Comment est-ce qu'ils l'ont vu et entendu? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Je voudrais rappeler quand même, avant de démarrer, que les disciples, c'était des gens tout à fait ordinaires. Tout à fait ordinaires, comme vous et moi. Ils n'avaient, eux, par contre, quasiment, pour tous, aucune éducation. Ils n'avaient jamais été à l'école, passé des diplômes, appris à étudier. C'était des gens extrêmement simples. Et c'était avec cette vie sans beaucoup d'instruction, ils vont vivre avec Jésus pendant 3 ans. Ils vont abandonner leur vie habituelle, leur culture. Ils vont abandonner la façon de faire qu'ils avaient pour vivre avec Jésus pendant 3 ans. Alors nous, on a vécu ensemble pendant 1 semaine. Alors au début, il y a eu quelques petites tensions, il y a eu des choses comme ça, etc. C'est normal, hein, c'est le démarrage de la vie communautaire. Et puis Dieu a mis sa main, et puis les enseignements ont commencé à percuter et à toucher les gens. Et on a vu qu'il y a eu un changement qui s'est opéré à l'intérieur des cœurs et à l'intérieur des âmes. Ils ont vécu 3 ans, et pendant 3 ans, ils vont être influencés par son enseignement. Alors, dès le départ, ils ont vu que Jésus, c'était un être extrêmement exceptionnel. Tu lances le filet et puis tu retires énormément de poissons. Pierre, il est là, je ne suis pas digne. Même lorsqu'il s'agit d'aller au baptême, Jean le Baptiste, son cousin, qui lui dit, mais je ne suis pas digne. Et petit à petit, au bout de 3 années qu'on vit l'un à côté de l'autre, qu'on vit les galères ensemble, qu'on vit tous les petits problèmes de la vie quotidienne ensemble, eh ben, on finit par devenir amis. On finit par avoir une relation qui est quand même plus amicale, l'un avec l'autre. En tous les cas, on finit par partager. C'est pas seulement un maître. C'est pas seulement quelqu'un qui est en train de les enseigner. Oui, ça reste le maître, parce que il est quand même exceptionnel, il est quand même très spécial, mais il y a quand même une relation qui s'est installée. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, que les 3 ans se passent, que ces chapitres aussi de 14 à 17 sont en train de se dérouler, on voit que Jésus va corriger et remettre à l'endroit un certain nombre de choses qui étaient complètement à l'envers dans leur vision et qui se sont incrustées finalement dès le départ de l'humanité à l'intérieur de Genèse chapitre 3. Jésus va corriger leur vision et corriger leur vision de Dieu et leur vision du Père aussi, à quelque part. Et il va remettre les choses dans le bon sens. Et en faisant cela, dans ces derniers instants, dans cette dernière soirée, il va défier la religion, Il va défier le devoir légaliste, il va défier le travail où on est juste soumis à faire quelque chose pour faire quelque chose dans une forme de servitude religieuse, et il va particulièrement s'opposer à ce que les pharisiens et toute la religiosité avaient apporté au niveau culturel à l'intérieur du cœur des disciples. Et en même temps qu'il fait cela, donc en même temps qu'il défie ces choses, il va restaurer autre chose. Et il va mettre en place autre chose, comme le Père le voulait à l'origine, comme il l'a toujours voulu. Et on va le vivre ensemble au travers de quelques scènes, mais on va essayer de se mettre à la place des yeux des disciples, parce que je pense que dans ces derniers instants, ils ont vécu vraiment quelque chose de très déroutant. Très, très déroutant. Si vous prenez, par exemple, Jean au chapitre 14, il y a Jésus qui dit, qui leur dit, « Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Tu, vous, les disciples, êtes en moi. Je suis en vous. Moi et le Père sommes en vous. L'Esprit de vérité est en vous. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais à moins de dresser un petit schéma, je ne sais plus bien à la fin qui est dans qui. Et eux, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les écrits. Hein. Ils n'ont pas les écrits, hein. Ils ne sont pas en train de scriber en même temps, ils n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir tout remettre dans le bon sens. Et ils entendent ça. C'est prise de tête un peu, hein. C'est prise de tête. C'est pas si clair que ça. Pourtant, si on prend le temps de dessiner un petit schéma, on s'aperçoit qu'on est au centre de la Trinité. Et Trevor, pendant ses enseignements, là, dans la school-aid, il met trois chaises, comme ça, d'accord ? Il faudrait prendre trois chaises, il les met comme ça, et on est au centre. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on est au centre. Nous sommes dans la Trinité. Et il nous a inclus dans ça. On sait qu'on est en Jésus, qu'il est en son Père, que le Père a fait sa maison dans notre cœur, d'accord ? Et que nous avons fait notre maison dans son cœur. On est au centre de la Trinité. Alors, lorsque Jésus parle ce soir-là, c'est perturbant. C'est tellement perturbant que Philippe finit par dire « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Arrête de parler compliqué, là. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et il rajoute, il y a Jésus qui en rajoute une couche pour bien faire les choses qui rendent compliquées les choses. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Philippe a eu la révélation qu'en fait, tout tourne autour du Père. Il a compris que c'est à propos du Père. Mais il comprend cela et il finit par poser cette question « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Puis Jésus qui lui dit « Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Donc tu as vu le Père. » Et moi, là, les disciples, ils se grattent la tête, quoi. Ils se disent « Attends, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ?» Si nous l'avons vu, nous avons vu le Père. Mais non, j'ai bien vu Jésus, je suis touché, hein, comme un Jean le dit, hein, on l'a touché, il n'y a pas de problème, mais le Père, non, je ne le vois pas. On a juste vu Jésus. Et je ne pense pas qu'à ce moment précis de la soirée, ils aient eu la révélation qu'en voyant Jésus, ils voyaient le Père. Comme nous, on peut l'avoir aujourd'hui. Je pense qu'ils ont juste eu une question de plus à l'intérieur de leur cerveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis c'est pareil, lorsque Thomas dit à Jésus, nous ne savons pas le chemin, montre-nous le chemin. Et Jésus qui leur répond, je suis le chemin. Allô ? La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Faut se mettre à leur place. Vous êtes assis en rond, là, bon, sympa comme question, sympa comme réponse, mais c'est pas très clair. C'est un peu troublant comme réponse, non ? Vous, évidemment, vous avez le recul, vous avez pu le relire, vous avez déjà eu des enseignements, mais mettez-vous à la place des disciples. C'est la première fois, ils sont en train de le vivre, c'est la première fois qu'ils l'entendent, c'est quand même très troublant comme réponse. Et la conversation est déroutante. Rappelez-vous, la semaine précédente de cette soirée, ils arrivent à Jérusalem, Jésus arrive sur un ânon, et puis tout le monde acclame, on place des branchages devant le chemin de Jésus, et là les disciples, ils sentent bien que c'est une semaine particulière, ils sentent qu'il va se passer quelque chose, il y a une ambiance, il va se passer quelque chose, puis ils savent pas quoi encore, mais c'est sur le point de se produire, c'est évident, ils le sentent. Et puis au fur et à mesure que la semaine passe, l'ambiance dans Jérusalem est en train de changer. Et au lieu que les foules soient pour Jésus, elles commencent à se détourner de Jésus. Elles commencent même à vouloir sa mort. Certains commencent à vouloir souhaiter sa mort, à se retourner pour qu'il soit crucifié. Et on est le dernier soir, donc l'ambiance dans Jérusalem, elle a déjà bien changé, puisque c'est la veille de son arrestation. Cette période qu'ils sentent déjà très, très perturbante, ce dialogue qui est en train de s'installer entre eux et les disciples, qui est rempli de questionnements, qui est rempli de choses déroutantes aussi, l'ambiance qui a changé, qui fait qu'eux aussi sont associés à Jésus, donc ils sont considérés comme tels, eux aussi sont visés quelque part. Donc ils doivent se poser beaucoup de questions sur leur propre avenir. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. On les acclame, on acclame Jésus, donc quelque part, c'est eux qui montent avec, mais quand on veut crucifier Jésus, c'est quelque part eux aussi qu'on vise, parce qu'ils savent qu'ils ont passé du temps avec Jésus. Donc ils sont dans cet état d'esprit, où c'est vraiment compliqué. Ils vivent ça pour la première fois, et c'est des gens tout à fait ordinaires. Lorsque j'ai été capturé en Afrique, quand on m'a tiré dessus et que j'ai été capturé en Afrique, j'étais avec 2 autres personnes. Ces 2 autres personnes, c'était des gens de la rue. C'était des gens qui venaient de la rue, qui avaient vécu des choses très bizarres, que moi, j'ai jamais vécu. Quand on vit dans la rue et qu'on vit tout seul dans les bois, on est confronté à des situations que moi, qui venais d'une famille plutôt standard, centre de la France, n'avais jamais vécu. Donc, quand j'ai vécu la situation d'entendre des balles siffler autour de moi, d'être capturé, d'être mis en prison, c'est des choses que moi, je n'avais jamais vécues. C'était la première fois que je les vivais. Mais être mis en prison pour certains des 2 qui m'accompagnaient, c'était des choses qu'ils avaient déjà vécues. C'était moins impressionnant pour eux. Et donc, c'est la même chose quand eux, ils sont dans cette situation et ils n'ont jamais été opposés, si ce n'est le zélote, là, qui était un terroriste. Ils n'ont jamais été opposés au gouvernement local. Ils ont peut-être dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont jamais fomenté quelque chose. Et là, ils sentent toute la pression en même temps qui est en train de se passer. Et puis, en même temps, Jésus, qui, au lieu de les rassurer et de les réconforter comme il l'attendait, il est en train de rajouter des choses compliquées qu'il n'arrive pas à saisir. Et heureusement, au milieu du chapitre 14, Jésus leur dit quelque chose qui leur a certainement apporté un vrai soulagement, un véritable soulagement. En Jean 14, 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ça, c'est clair. Ça fait du bien. Dans la conversation précédente, c'était pas très clair, on n'avait pas tout compris, mais là, je comprends. Les disciples, ils ont dit, mais là, je comprends, c'est clair. Tout ce que je vais pouvoir te demander, tu vas le faire. Ils avaient l'habitude de demander à Jésus. Ça faisait 3 ans qu'ils passaient du temps avec Jésus. Et Jésus, comment on va faire pour nourrir les foules? Et Jésus, comment on va faire pour traverser? Et Jésus, comment on va faire pour payer la taxe? Et Jésus, ils avaient l'habitude de demander à Jésus. Ça, c'était pas un problème. Ils savaient comment faire pour demander à Jésus. Et je pense que ce verset-là, ce texte-là que Jésus a dit, ça leur a apporté beaucoup de réconfort aux disciples. La situation, elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça à l'extérieur. Elle n'est pas si difficile que ça. On peut tout lui demander, il l'a dit. On peut lui demander et il le fera. Et ils avaient l'habitude que Jésus le fasse. Ce n'était pas quelqu'un qui ne tenait pas sa parole. Donc, ils n'avaient pas de problème avec ça. Ils avaient l'habitude de demander à Jésus et c'était rassurant. Puis la soirée continue, elle progresse et on arrive à Jean chapitre 16. Et voilà que Jésus va leur dire quelque chose qui est complètement le contraire de ce qu'ils venaient d'entendre. C'est encore un autre de ces dialogues qui porte à confusion. Regardez dans Jean chapitre 16, verset 17. Les disciples disent à Jésus, « Jésus, on ne te comprend pas. Pourquoi es-tu si compliqué? Pourquoi parles-tu par énigme? Pourquoi tu rends les choses si difficiles? Il n'y a pas deux chapitres, tu nous disais des choses très simples, et puis maintenant, voilà que tu repars dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à saisir. On ne comprend pas ce que tu dis. » Et Jésus va leur répondre au verset 23, il va le dire, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » J'imagine les disciples qui disent, « Mais attends, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Il y a deux chapitres. Tu me dis, Jésus, vous pouvez tout me demander et je le ferai. Et voilà que deux chapitres plus loin, un petit peu plus tard dans la soirée, tu es en train de me dire, vous ne me demanderez plus rien. Allô? Mais est-ce que tu es cohérent toi-même, là, quelque part? Et c'est décourageant pour les disciples, ils n'arrivent pas à saisir ça. Ils pensaient avoir saisi, et voilà que Jésus reparle, et de nouveau, il dit complètement le contraire de ce qu'il leur a dit et qui les avait rassurés. Et Jésus poursuit, et c'est vraiment très important ce qu'il dit, il dit très sincèrement. Alors, c'est quoi très sincèrement dans la Bible? C'est en vérité, d'accord? Très sincèrement, je vous dis que mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et Jésus le répète un peu plus loin au verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. C'est quoi l'application de ce verset qui vient de nous être dit? Je ne vais pas demander au Père. Je ne vais pas demander au Père pour vous, mais tu peux aller voir directement le Père, tu peux parler de ton propre chef au Père, et il répondra. C'est ça que ça veut dire. D'un coup, Jésus a changé la donne en disant, demande-moi n'importe quoi, et il le transforme en va voir le Père toi-même, et il te donnera ce que tu as demandé. C'est un revirement complet. C'est un revirement et un changement complet. Jésus est en train de remettre les choses dans le bon sens. Il a rétabli, quelque part, la relation entre Dieu et l'humanité telle qu'elle devait être à l'origine, telle que c'était prévu. Et il est en train de dire à ses disciples, « Hé, regardez les gars, vous avez un accès direct au Père. Vous n'avez plus besoin de passer par moi. Vous n'avez plus besoin de passer par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous dit qu'il faut passer par lui, vous vous trompez. Vous pouvez aller chercher directement chez le Père ce dont vous avez besoin, comme n'importe quel enfant peut aller voir son Père pour lui demander quelque chose. » Jésus, en cela, est en train de détruire l'esprit religieux. Parce que Dans le pharisianisme, comme dans toutes les religions, eh ben, tu ne peux pas avoir un accès direct à Dieu. Tu dois passer par quelqu'un d'autre, tu dois aller voir les pharisiens, tu dois répondre à un certain nombre de lois et de règles pour pouvoir accéder à Dieu. Et l'humanité, elle a été séparée de Dieu. Et dans ces quelques versets que Jésus est en train de faire vivre à ses disciples au travers de la dernière scène, il est en train de remettre les choses dans le bon sens. Il rétablit la relation qui était à l'origine et qui avait été perdue, la relation entre les hommes et Dieu, le Père, entre le Père et ses enfants. Et il dit, tu n'as pas besoin de me demander. Tu n'as pas besoin de m'en demander, c'est Jésus qui le dit. Mais le Père te donnera tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu demandes en son nom. Tu peux aller voir le Père directement. Et on peut, nous aussi, aller voir le Père directement. Et le verset suivant du chapitre 16 de Jean, verset 27, Jésus dit « Car le Père lui-même vous aime. » Car le Père lui-même vous aime. Et je pense que c'est une déclaration des plus significatives de ce que Dieu est en train d'exprimer vers nous. Et le fait de savoir que le Père nous aime, le fait de savoir qu'il ne nous en veut pas, il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos fautes, il n'est pas en train nous n'avons pas à avoir peur de lui parce qu'il nous aime. Nous avons un accès direct auprès de lui. Et si le Père nous aime ainsi, il y a Jérémie 31,3 qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que le Père nous aime encore aujourd'hui d'un amour éternel qui ne s'arrêtera pas. Et ce n'est pas quelque chose d'historique. Il n'a pas aimé dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de futur. Il ne va pas nous aimer plus tard quand on sera parfait. C'est quelque chose qui est réel pour nous aujourd'hui, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état, quel que soit ce que nous avons pu faire, penser ou dire, il nous aime d'un amour éternel. Alléluia. C'est acquis. Le Père lui-même vous aime. C'est pour ça qu'il le dit dans Jean chapitre 16, verset 27. Il dit, je n'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin de me demander, mais vous pouvez vous adresser directement au Père. Vous pouvez lui demander les choses parce que le Père lui-même vous aime et qu'il vous aime éternellement. Alléluia. C'est une révélation incroyablement puissante que Jésus est en train de donner à ses disciples à ce moment-là. Et Jésus est en train de remettre les choses à l'endroit. Alléluia. Alors c'est comme ça que ça aurait dû toujours être, mais ce n'était pas comme ça malheureusement. Ce n'est pas que le but de Dieu a changé. Le but de Dieu a toujours été le même depuis le début de la création. Et avant même la création, avoir une relation avec ses enfants, c'est simplement la restauration du plan et du but de Dieu à l'intérieur de nos vies. Dans ce qui est des relations, Dieu a toujours eu un seul objectif, un seul, c'est que nous ayons une relation avec lui en tant que père, avec une façon de relationner avec lui comme père et fils et fille. Parce que nous sommes ses enfants, tout simplement. Et comme on est ses enfants, on peut aller le voir à tout moment. C'est l'intimité de cette relation qui est importante, qui au travers des siècles a été perdue. Elle a été perdue dans une première partie jusqu'à la révélation que Jésus est en train de donner à ses disciples le soir de la Sainte Cène. Et elle a été perdue encore après, au temps du Moyen-Âge, au point qu'elle est en train d'être restaurée aujourd'hui dans notre relation avec Dieu. Et dans cette intimité de cette relation, et ben quand on l'a perdue, elle a été détruite par le légalisme, détruite par la religion, détruite par les efforts, détruite par la performance que l'on doit obtenir pour avoir une relation avec Dieu. Et Jésus, juste en parlant simplement à ses disciples, à ce moment-là, en une phrase, vient d'essuyer absolument tous les faux acquis qu'ils avaient pu avoir pendant leur culture, pendant leur vie de jeunesse, pendant leur culture, des années de religiosité culturelle dans laquelle ils ont été, en disant, tu peux aller voir le Père directement, tu n'as pas à passer au travers de moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Père t'aime dès maintenant et pour toujours. Quel que soit ce que tu as fait et dit. Et quand Jésus a dit cela, les disciples lui ont dit, eh, ça y est, on a compris. On a compris. C'est clair, tu parles clairement. Tu ne parles plus au figuré, tu n'es plus en train d'utiliser des énigmes. C'est pas compliqué, c'est quelque chose de très simple. Ça oui, on arrive à comprendre, il n'y a pas de souci. Et on comprend que le Père nous aime. On comprend que nous pouvons aller voir le Père nous-mêmes. Ça, on le comprend. Et qu'est-ce qui a changé, finalement, entre ces deux versets ? Eh bien, moi, je citerai tout simplement Jean chapitre 14, verset 18, où il dit « Je ne vous abandonnerai pas comme orphelins. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je viendrai à vous. » Parce qu'un orphelin, pourquoi ? Il ne peut pas croire au Père. Il ne peut pas avoir de relation avec le Père. Parce qu'il est orphelin. Il n'est pas de la parenté, il n'est pas accepté par le Père. Il estime qu'il doit travailler pour gagner sa relation avec le Père. Il doit travailler pour gagner un peu d'affection. Et il doit rester suffisamment bon pour que les autres ne prennent pas sa place, qu'ils ne le couvrent pas d'ombrage. Sinon, il va se retrouver à l'écart. Il va se retrouver dans un petit coin, oui, mais de toute façon, personne ne m'aime. Et ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu les choses. Et lorsque Jésus est en train de dire « Non, 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 vous n'êtes pas des orphelins. » Il est en train de restaurer là encore quelque chose, transformer à l'intérieur de leur cœur quelque chose. Il est en train de restaurer la véritable relation qu'ils ont le droit d'avoir avec le Père. Ce n'est pas une relation qu'un serviteur doit gagner pour avoir le droit d'avoir une relation avec le Père, c'est pas du tout ce genre de choses, c'est pas une relation d'esclave, c'est pas une relation de serviteur, mais c'est une relation de père vers des fils et des filles, vers des enfants. Vous n'êtes pas orphelin, vous avez accès auprès du Père. Jean 8, 35, un fils a une place permanente dans la famille. Un fils a une place permanente, pas quelque chose qui s'arrête demain. C'est permanent, mais vous... D'accord ? Excusez-moi, j'ai loupé le morceau. Un fils appartient à la famille, mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Et ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des serviteurs. Oui, ils servaient le maître. Pendant des années, ils ont servi le maître. Mais là, Dieu est en train de leur dire, mais Jésus est en train de leur dire aux disciples, mais vous avez un accès direct au Père, vous êtes des fils et des filles, vous n'êtes plus orphelins. Ni des gens du dehors. Vous êtes de la famille, vous avez un accès permanent au Père. Et c'est devenu simple et clair pour les disciples. Ils aspiraient à cela. Ils ont vu tout ce que Jésus parlait dès le début du chapitre 14, c'était devenu simple et clair. Il est le chemin vers le Père. Le Père est avec eux, ils sont dans le Père, ils ont un accès au Père. Ce qui était déroutant est devenu très clair. Le Père vous aime et vous êtes ses enfants. Le Père vous aime et vous êtes ses enfants. Tu peux lui parler, tu peux être avec lui. Il a fait sa maison dans ton cœur. Et tu as fait ta maison dans son cœur. La simplicité de cela est puissante. Et vous savez, je crois une chose, c'est que quand l'évangile devient simple, je crois qu'on a compris quelque chose. Trop souvent, on cherche des choses très compliquées et on passe à côté de la simplicité de l'évangile. Et Jésus, il est venu là et il a brisé la complexité. Il a commencé par les perdre un petit peu, mais il a brisé la complexité en restaurant les choses. Ce n'est pas une nouvelle relation qu'il est en train de créer. Il n'est pas en train de créer quelque chose de neuf, mais il est en train de restaurer le rétablissement de la relation originelle qu'il y avait avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vit longtemps dans une erreur que cette erreur est la vérité. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on vit longtemps dans le mauvais sens que ça fait longtemps qu'on y croit, que c'est vrai. Il y a des tas de gens qui ne croyaient plus au Saint-Esprit et qui, au bout d'un moment, ont fini par se dire « mais je me suis trompé ». Il y a des tas de gens qui ne croyaient pas qu'on pouvait être sauvé par la foi et qui, à un moment donné, ont fini de se dire « je me suis trompé ». Et il y a des tas de gens qui ne pensaient pas qu'on pouvait avoir une relation avec le Père, comme des enfants avec le Père. Et je souhaite qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Alléluia. Et c'est ce que les disciples ont découvert à ce moment-là. Et ils ont redécouvert le plan originel du Père et son intention originelle la relation qu'il voulait. Hein, comme Adam et Ève avec le Père. Il y avait la même qualité de relation, tout simplement parce que le Père lui-même vous aime. Et vous savez que nous, dans le mot amour, on n'est pas très fort. Hein, on a un seul mot amour, hein, j'aime mon chien, j'aime la brosse à dents, j'aime ma femme, j'aime Dieu, voilà. On a un seul mot qui décrit tout ça, et le grec a plusieurs mots, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus, mais le mot qui est utilisé dans le Père lui-même vous aime, c'est le mot philéo. Et philéo, c'est le sens de l'amour fraternel, l'amour familial. Donc le Père est en train de dire, et je pense que ce n'est pas un hasard, je pense que Jésus n'a dit que ce que le Père lui disait de dire, et qu'il ne s'est pas trompé quand il a utilisé ce mot-là, il est en train de dire, le Père vous aime d'un amour familial, vous êtes vraiment en relation, vous pouvez communiquer avec lui librement, vous êtes vraiment des fils et des filles. C'est pas j'aime des gens à l'extérieur, c'est vous êtes de la famille. Et c'est l'intention du Père que de nous dire qu'il nous aime d'un amour familial. C'est pas un devoir pieux que le Père fait en se disant le matin, bon, je suis quelqu'un qui aime tout le temps, d'accord, puisqu'il n'y a pas de bouton off à mon amour. Comment est-ce que je vais pouvoir aimer Charmy aujourd'hui? Il se lève le matin, là, et il se dit, comment je vais pouvoir aimer Charmy aujourd'hui? Non! C'est naturel, c'est en lui. Il aime Charmy. Il l'aime. Alléluia. C'est en lui, c'est un amour filial. Elle est incluse dans sa famille. Elle est en relation avec lui. Il va au-delà de la fausse impression que de faire un effort pour pouvoir gagner cet amour. Alléluia. Jésus n'a pas utilisé ce mot par accident. À mon avis, c'était délibéré et voulu. Il voulait décrire la nouvelle relation que les disciples pouvaient avoir avec le Père. Comme quoi, ils étaient inclus dans la famille. Cette relation qui a toujours été et qui est destinée à être. En 3 ans de vie avec Jésus, ils ne l'avaient pas encore saisie. Il leur fallait une révélation supplémentaire. Et cette révélation, elle a été donnée le dernier soir. Et c'est la révélation la plus importante que les disciples pouvaient vivre. Et il a fallu 3 ans de préparation pour la recevoir. 3 ans de préparation pour qu'ils puissent accepter, qu'ils puissent abandonner le bagage culturel qu'ils avaient, le bagage de crainte, le bagage de loi, le bagage des pharisiens, le bagage de tout ça, pour oser affronter et confronter les choses qui étaient à l'extérieur, pour oser enfin vivre ce que Dieu avait toujours prévu qu'ils vivent dès le départ. Alléluia, vous voyez ça? C'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que Jésus dira, j'ai accompli la tâche. Ça y est, c'est au moment où je leur ai donné la révélation du Père, au moment où ils ont compris la révélation du Père, qu'il peut dire, j'ai accompli la tâche. Oui, il allait passer à la croix, ça c'était pour le pardon des péchés, ça c'était pour le rachat, la rédemption. Mais au moment où il a terminé, d'accord, ce discours avec les disciples qui les a amenés en communion et en communication avec le Père tel qu'il l'a toujours voulu, à ce moment-là, il avait accompli la tâche. Alléluia. Wouh ! Et ça enlève, je pense, réellement tout devoir religieux. Ils ont été éduqués dans l'erreur, oui, mais il est en train de leur dire, tu es un fils, pas un fils illégitime. Tu es un fils, le Père t'aime, il veut passer du temps avec toi, il veut être avec toi, il veut te connaître, il veut discuter avec toi, il veut avoir une relation profonde avec toi. Et on peut simplement accepter sa présence, on peut simplement aller le voir, parce que nous sommes ses enfants et qu'il est notre Père. Aucun frein ne peut se permettre de bloquer la route à cette relation. Alléluia. Et même si on pense que les versets de Jean 14 et Jean 16 sont contradictoires, je ne pense pas qu'ils le soient. Je ne pense pas qu'ils le soient. Je pense qu'ils sont un peu comme avant la photo et après la photo. Vous savez, hein, on aime bien montrer avant-après, hein, surtout pour la chute des cheveux, des produits miracles. Et avant qu'il arrive quelque chose, Jésus dit, tu peux me demander. avant qu'il n'arrive quelque chose de bien spécifique, il dit, Jésus dit, tu peux me demander quelque chose. Et je le ferai. D'accord ? Et puis après, ça c'est la photo après, il dit, après qu'il se soit passé quelque chose, non, tu peux aller voir le Père toi-même directement parce qu'il t'aime. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est l'événement qui a eu lieu entre le chapitre 14 et 18 où Jésus, qui a eu lieu, qui a fait cette transformation entre les deux ? Et bien, je crois que c'est ce verset-là qui dit « Vous n'êtes pas orphelins ». C'est ça la différence. Avant, ils étaient encore avec ce sentiment d'orphelin. Ils sentaient encore écartés, pas avoir accès à Yahweh. On n'a même pas le droit de prononcer les voyelles des peurs que. De peur que. Et là, ils ont le droit d'accéder. Vous n'êtes plus orphelin. Vous êtes dans sa famille. Il a enlevé le vide des cœurs. Il a enlevé la séparation qui existait entre nous et le Père. Il les a ramenés dans cette unité. Moi en eux et toi en moi. Alléluia. Il nous a mis en relation avec le Père, il a tout arrangé, il a remis dans le bon sens. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles et nous pouvons aller voir le Père directement. Alors, si on regarde un petit peu, il y a un petit peu le même type de changement qui s'est réalisé entre dans Jean chapitre 15, les versets 14 et 15. Jésus dit, dans Jean chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Je ne vous appelle plus serviteur. Et je suppose que quand les disciples ont vécu avec Jésus, quand ils se sont aperçus que c'était un être vraiment très spécial, capable de multiplier les poissons, capable de guérir les aveugles, capable de s'opposer aux pharisiens, capables de tenir tête à la religion locale, ils se sont dit, bon, vraiment, c'est... Et ils l'ont servi, je pense, réellement, comme des serviteurs peuvent servir le maître. Oui, ils ont eu une communion plus profonde, parce ils ont marché 3 ans avec lui. Ils ne sont pas restés trop distants. Il y a eu des moments où Jésus leur a expliqué les paraboles, il y a eu des moments où Jésus s'est ouvert. Mais c'était quand même, on sert le maître. C'était quand même, on sert le maître. Le moment où ils sont rentrés dans la ville et que la ville a refusé de les accueillir, c'était que la foudre tombe du ciel, parce qu'ils ont refusé d'accueillir le maître. Pas tant eux, mais le maître. Je crois que dans la relation qu'ils avaient, il y avait encore cette notion de serviteur, du maître. Et quelque part, au fur et à mesure que Jésus leur parle, il est en train de leur dire, c'est la fin, vous n'êtes pas. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Vous avez fait ce cheminement avec moi. Vous avez été avec moi. Vous avez vécu avec moi. Vous avez compris des choses. Je suis dans les derniers temps. Et là, je vous donne la dernière révélation avant de pouvoir partir pour avoir tout accompli. Et je vous donne cette dernière révélation. Vous n'êtes plus des serviteurs. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis parce que j'ai partagé avec vous les affaires de mon Père. J'ai partagé avec vous le cœur de mon Père. Je vous ai dit de quoi il s'agit. Je vous ai dit de qui il s'agit. Vous pouvez avoir une relation avec lui. Vous êtes mes amis. Ça a dû être réconfortant pour les disciples d'entendre cela. Ah, on n'est plus seulement des serviteurs. On n'est pas ceux qui mettons juste les chaises. On n'est pas ceux qui balayons le matin avant de démarrer le culte. On est aussi tes amis. Alléluia. Dieu les appelle les amis. Ce ne sont plus des serviteurs, mais des amis. Et tout ce que Jésus dit aux disciples dans les évangiles, il nous le dit aussi. On est ses amis. On est ses amis. On n'est pas des domestiques pour la religion. On est ses amis. Alléluia. Jésus est notre grand frère et il veut être notre ami. Jean chapitre 17, il dit « Je vous ai révélé le Père et je continuerai de le révéler. » Je vous ai révélé le Père, ça y est, j'ai tout accompli, je vous ai révélé le Père, mais je vais continuer à vous le révéler. Et c'est cette relation avec Jésus que nous avons, même si nous avons une relation avec le Père, elle va continuer, parce qu'il va continuer à nous révéler qui est le Père. Alléluia! Ne vous considérez pas comme un esclave. Ne vous considérez pas comme un serviteur. Ne vous voyez pas comme un orphelin. Ne vous mettez pas de côté parce que vous n'êtes pas digne. Mais vous êtes ses amis. Vous êtes un fils et une fille du Père. Alors, être les amis de Jésus, c'était déjà merveilleux. Mais cela va encore plus loin. Jésus est en train de rétablir notre relation avec le Père. Il nous montre ce que ça devrait vraiment être. Et puis, regardez dans Jean chapitre 20, après que Jésus soit crucifié et qu'il est sorti du tombeau, il y a Marie qui est dans le jardin avec lui, une des quatre Maries. Et elle vient de découvrir que c'est Jésus et non pas le jardinier. Hein, vous savez, elle le voit de dos, elle croit que c'est le jardinier. Et j'ai fait exprès de prendre une traduction anglaise. Arrête de... Jésus lui répond, vous savez, Marie cherche à le prendre dans les bras, et Jésus va répondre, arrête de t'accrocher à moi. Alors dans la traduction française, c'est ne me touche pas. La traduction anglaise, c'est arrête de t'accrocher à moi. Je trouvais que c'était plus parlant. On sent l'énergie qu'elle avait à vouloir prendre Jésus dans ses bras. Arrête de t'accrocher à moi, car je ne suis pas monté encore vers mon Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. C'est la continuation de la révélation, vers mon Dieu et votre Dieu. Si ce n'était pas assez clair, maintenant tu ne peux pas te tromper. Hein? Voilà. Et Jésus va plus loin, il dit, oui, vous êtes mes amis, mais bien plus que mes amis, vous êtes mes frères. Alléluia. Et vous êtes héritiers avec moi de toutes les promesses. Ce voyage, en quelques chapitres, en trois chapitres, ce voyage qu'on est en train de réaliser avec les disciples, nous fait passer de l'état d'orphelin, d'accord, serviteur d'un maître, à celui d'un fils du Père, ami de Jésus, frère de Jésus, où il va continuer de nous révéler, on pourra continuer d'avoir une relation avec Jésus puisqu'il va continuer de nous révéler le Père. Mais nous avons une relation directe avec le Père, nous pouvons nous adresser à lui directement. Il n'est pas distant, il n'a jamais été distant, il n'est pas en colère. Et la vraie relation que nous avons avec lui, c'est qu'il est notre Père et Jésus est notre frère. Jésus, en quelques chapitres, a corrigé des siècles d'erreurs. Et il a rattrapé la chute. Il nous a remis dans la position où nous étions avant la chute. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes pas des orphelins, vous êtes mes amis, vous êtes mes frères. Et tout comme Dieu est mon Père, il est votre Père. Il est votre Père. Vous savez, j'ai cité ces versets bien souvent, mais Jérémie chapitre 3, verset 19, Dieu le Père parle et il dit... Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants ? Comment te mettrai-je parmi mes enfants ? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations ? Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Voyez-vous, même dans l'Ancien Testament, il est en train de dire, mais je suis père, et je voudrais tellement que tu m'appelles père. Je serai pour vous un père. 2 Corinthiens 6, 18. Vous serez pour moi des fils et des filles. C'est l'écho que nous pouvons avoir dans le Nouveau Testament. Il promet qu'il sera un père pour nous. Alors vous savez, j'ai souvent remarqué deux choses différentes. Lorsque les gens prient, et entre ce que les gens disent quand ils prient et ce que les gens disent quand ils parlent. J'ai entendu beaucoup de sermons avec des gens qui disaient qu'ils connaissaient le Père et qu'ils parlent de Dieu comme un Père. Mais par contre, quand ils prient, cette intimité disparaît soudain. Dieu devient Seigneur, Roi, Maître. et j'ai juste écouté la façon dont on parle et la façon dont on lui parle. C'est un peu comme, je vais prendre un exemple. C'est un peu comme, je vais prendre Trevor. Trevor, c'était l'orateur de cette semaine. C'est un peu comme Trevor, qui est donc pasteur à la base. Et on parle entre nous de Trevor, et on dit Trevor. D'accord ? Trevor a fait ci, Trevor a fait ça, enfin bon, voilà. Et puis d'un seul coup, Trevor rentre dans la salle. Coucou, c'est moi. Ok ? Et là, on dit pasteur Trevor, ou pasteur tout court. Bonjour pasteur, comment ça va pasteur, machin, etc. Et on appelle la personne non plus. Avec ce... Quelle est la relation qu'on a avec lui ? Mais avec un titre, une fonction. Eh bien, c'est la même chose dans la prière. Dieu est notre Père. C'est ce qu'il, comme ça, il le dit dans Jérémie 31:19. Il dit, j'ai tellement voulu que vous m'appeliez Père. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Et je remarque cette différence dans les prières entre quand on parle de Dieu comme Père, on est capable de parler comme Père. Oui, Dieu est Père. Et puis dans la prière, ô Seigneur, ô Roi, ô Maître. Mais ça me parle de l'intimité qu'on a. Ça me parle de l'intimité qu'on a créée avec lui. Ça me parle du niveau de relation. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas quoi que ce soit du tout de ce genre. Mais ça me parle de ce que je suis avec lui, du niveau de relation que j'ai acquis avec lui. Il a dit aux disciples, vous pouvez aller voir le Père directement. Mes enfants, quand ils viennent me voir, ils ne me disent pas, monsieur l'officier de sécurité d'Airbus, me disent papa, parce que je suis père pour eux. Bonjour daddy, bonjour papa. Et c'est comme ça qu'il veut qu'on s'adresse à lui. Papa, s'il te plaît, je peux aller te voir. C'est écrit, je l'ai lu là. Je l'ai lu. Je peux aller te voir comme ça. Oui, ça fait des années qu'on se trompe peut-être. C'est la dernière révélation avant que tu partes à la croix, mais tu nous l'as dit là. Tu l'as dit à tes disciples, tu nous aimes d'un amour éternel. Jésus est mon grand frère, Jésus est mon frère, il est mon ami. Et je peux aller te voir, papa, et Jésus me révèle le Père. Oui, il me dit comment t'as été, c'est super, machin, etc. Mais j'ai envie de te voir, toi. Je peux te dire papa dans la prière. Je peux te dire Père dans la prière. Non, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Waouh! Oui! C'est pas parce qu'on s'est trompé des dizaines d'années qu'on est obligé de rester dans l'erreur. Si on en a la révélation autrement. Le Père veut qu'on soit comme ça avec lui, dans sa présence. Il veut que nous l'appelions Père parce que c'est ce qu'il est. Il ne veut pas qu'on l'appelle dans sa fonction, dans son titre de ministère. Il veut, oui, il est. Je suis d'accord, Jésus est roi, mais il est roi pour qui ? Il veut juste qu'on l'appelle Père, parce que c'est ce qu'il est. Et je nous encourage à réfléchir sur la façon dont nous nous adressons à lui. Où c'est qu'on en est dans la relation que nous avons tissée avec lui ? Quel est le niveau de qualité de relation que nous avons ? Est-ce que nous sommes comme les disciples dans la première étape de cette découverte ? La dernière que Jésus devait absolument faire, mais les 3 années, ce n'était que la préparation de ces 3 derniers chapitres où Jésus va révéler qu'en fait, oui, c'est super, vous m'avez accepté, vous avez vécu avec moi, vous avez fait des choses avec moi, c'est super, je vous ai montré mon cœur, je vous ai montré comment on devait se comporter avec les gens qui étaient les écartés de la société ou les écartelés de la société. Je vous ai montré toutes ces choses, je vous ai montré, je vous ai partagé mon cœur. Mais là, là, maintenant, maintenant, je vais vous donner ce qui est important. Moi, je vais partir. Moi, je vais partir. On vous enverra le Saint-Esprit pour que vous ne soyez pas orphelins. Mais mais vous n'êtes déjà pas orphelin parce que vous pouvez avoir une relation avec le Père. Waouh! Jésus pourra dire, ça y est, j'ai accompli la tâche que je devais accomplir. Le dernier enseignement, le principal, a été donné. Maintenant, je vais passer à la croix pour le pardon des péchés, pour la rédemption, mais ça y est, j'ai accompli ça. Nous l'appelons Père parce que c'est ce qu'il est pour nous, tout simplement. Je serai un Père pour toi, dit-il. Et c'est une illustration qui ne nécessite, qui n'est pas compliquée. Elle est claire, elle est nette. Tu peux aller voir le Père quelque part, c'est ce que Jésus leur a dit, parce qu'il t'aime. Il t'aime bien. Il est ami avec toi. Il est frère avec toi. On est frères tous les deux. Dieu est mon Père, mais c'est aussi ton Père. Tu as fait ta maison en lui et il a fait sa maison en toi. Il a brisé tous les faux prétextes, toute la religiosité, toutes les choses qui empêchaient la communion avec lui. Il nous a ramenés dans la relation qu'on devait avoir avec lui. On a toujours été fait pour nous amuser dans sa présence, pour être dans sa présence, se réjouir. Alors oui, ayant souffert un peu de temps, parce que pourquoi ? Parce que l'orphelin va réclamer ses droits, parce que la nature humaine, le monde déchu va réclamer ses droits, et ça va faire souffrir un peu de temps. Mais nous pouvons nous édifier, nous fortifier dans cette relation. Plus je m'entraîne à avoir une relation avec le Père, plus je suis dans sa présence, plus je prends l'habitude de revenir avec lui. Plus lorsque j'ai des soucis qui viennent et que je me remets dans sa présence, plus je prends l'habitude de revenir avec lui et plus les choses qui m'entourent ont moins d'influence sur moi. Mon esprit d'orphelin, mon cœur d'orphelin, parce qu'on ne chasse pas un esprit d'orphelin, mais on se laisse adopter par Dieu, et ben tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. Je suis dans sa présence. Ouvrons nos cœurs à qui est le Père pour nous. Ouvrons le cœur pour vivre le don d'être des fils et des filles. Quelqu'un a dit un jour, quand nous fermons nos cœurs, nous perdons le don d'être des fils. Quand nous fermons nos cœurs, nous perdons le don d'être des fils. Alors ouvrons nos cœurs pour vivre ce don d'être des fils et des filles dans sa présence. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors Père, merci de cette merveilleuse révélation que tu as donnée à tes disciples en quelques chapitres qui sont essentiels dans la révélation de qui tu es. Et après, c'est comment le vivre tous les jours, comment le vivre dans toutes les situations, comment construire avec ça, comment construire une église, comment vivre le baptême, comment vivre le combat dans la foi, comment vivre toutes ces choses-là. Mais ce qui est essentiel, c'est la relation que nous avons créée avec toi. C'est ce chemin que nous avons vécu avec toi. C'est cette révélation que tu nous as donnée. Et on a été dans l'erreur pendant des années, mais tu nous as révélé qui tu étais par le Saint-Esprit. Nous vivons des temps extraordinaires, uniques dans toute l'histoire de la vie chrétienne. Nous vivons des choses que les disciples ont vécues au moment où avant que tu ne t'en ailles et que les disciples ont partagé après. Lorsque Jean dira, regardez Jean, mais regardez Jean. Lorsque Jean, le disciple que Jésus aimait, s'il y avait quelqu'un qui était en relation avec Jésus, c'était Jean. Pourtant, dans 1 Jean, lorsqu'il écrit sa lettre, qu'il est un peu plus vieux, qu'il arrive à la fin de sa vie, il écrit sa lettre et il dit, nous aimons le Père. Nous aimons le Père. Nous avons une communion avec le Père. Il a compris, lui aussi, après des années, que ce qui était important, c'était le Père. Père, que cette révélation soit pour nous une évidence. Que nous puissions le vivre chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais jours. Que nous puissions nous fortifier en cela. Que nous puissions abandonner l'esprit orphelin pour être de tes fils, prêts à se sacrifier comme Jésus s'est sacrifié. Alléluia. Parce que l'amour nous poussera à ça de toute façon. Waouh! Merci, papa. À toi soit toute la gloire. Je me réjouis d'être ton fils. Qu'un esprit de sagesse et de connaissance nous couvre, nous ouvre la vision, la compréhension, la réalité des choses spirituelles. Alléluia.